Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Je vous retrouve dans quelques minutes pour vos animaux. Plein de sujets intéressants cette semaine encore. Nous allons parler des métiers en lien avec le monde animal. Je sais que beaucoup d'entre vous rêvent de travailler en lien avec les animaux. Eh bien, ce sera l'occasion de découvrir tous les métiers qui ont le vent en poupe dans cette émission. Et puis, nous parlerons notamment des orques et de comment méditer avec son chat. Riche programme, à tout de suite.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour à tous, bienvenue dans vos animaux. Merci d'être là, merci infiniment d'écouter Sud Radio. Alors au programme cette semaine, vous adorez les animaux et vous rêvez de travailler avec eux. Mais ce n'est pas toujours facile de trouver une formation adéquate qui vous assurera un vrai boulot derrière. Dans son numéro de mars, le magazine 30 millions d'amis dresse un panorama de 50 métiers en lien avec le monde animal. La journaliste qui a mené cette enquête sera avec nous pour en parler. Côté faune sauvage, nous plongerons dans l'univers fascinant des orques. Pierre-Robert Delatour partagera avec nous quelques-unes de ses observations avec ce grand prédateur des mers, surtout à ne pas rater. Enfin, dans C'est votre histoire, un peu de légèreté, on en a bien besoin en ce moment. Edith Gauthier, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé « 5 minutes pour méditer avec son chat », nous expliquera comment nous livrer à un peu de méditation en compagnie de nos petits félins, histoire de se faire un peu de bien. Merci à vous d'écouter vos animaux. Tout de suite, vos animaux et vous.
Sud Radio, vos animaux et vous.
J'ai le plaisir de recevoir par téléphone Gwen Hampe. Bonjour Gwen.
Bonjour Natacha.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes la journaliste qui a mené une longue enquête pour le magazine papier 30 millions d'amis. Vous proposez donc dans le numéro qui est en kiosque actuellement, le numéro du mois de mars, un dossier très complet sur les métiers en lien avec les animaux. C'est vrai que travailler avec les animaux, c'est quelque chose qui fait rêver. Ça a fait rêver beaucoup de générations. Ça continue. C'est peut-être encore plus d'actualité aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années.
Oui, en effet. L'amour des animaux et, comme vous le dites, la conscience environnementale est à l'origine de nombreuses vocations dans le secteur animalier.
Quels sont précisément les métiers qui sont aujourd'hui très à la mode, Gwen ?
Alors, les métiers à la mode sont d'abord ceux qui ont trait au service.
Oui.
Donc, les propriétaires sont bien conscients désormais que pour avoir un animal heureux, leur chien a besoin d'être promené, sorti, ce qui est parfois difficilement conciliable avec les emplois du temps professionnels. Donc, tout ce qui a trait à la promenade de chien connaît aussi un boom depuis quelques années. La même conscience qui amène à faire éduquer son chien pour qu'il puisse aussi interagir avec ses congénères de manière harmonieuse, être bien dans sa tête, supporter les périodes d'absence et être en bien-être en toutes circonstances, a aussi fait son chemin dans la tête des propriétaires qui n'hésitent pas à recourir à des professionnels pour apprendre les bases. Et évidemment, toujours les métiers qui ont trait aux soins. On prend de mieux en mieux et heureusement soin de son animal de compagnie, donc tous les métiers ayant trait au médical.
Donc tous ces services liés à l'animal de compagnie, on l'a bien compris, sont des métiers qui se développent. On a l'impression parfois d'être un peu face à une jungle dans dans tous ces métiers, voire même dans les formations. Est-ce qu'on peut devenir promeneur de chien, éducateur comme ça du jour au lendemain? Quels sont les bons cursus? Moi, ce que j'ai bien aimé à la lecture de l'article, enfin de ce dossier, parce que c'est plus qu'un article que vous avez publié dans le magazine 30 millions d'amis, c'est que vraiment vous faites une étude de fond sur chacun de ces métiers en parlant des formations, en parlant des débouchés, en parlant des revenus auxquels aussi on peut prétendre après avoir fait les formations nécessaires. Alors j'ai envie que Gwen, qu'on détaille un peu tout ça pour justement aiguiller nos auditeurs. Par exemple, vous nous parliez à l'instant des promenades de chiens. C'est vrai que c'est un métier qui se développe, mais finalement, est-ce qu'on a besoin d'être formé pour être promeneur de chiens? Comment ça se passe en fait?
Alors oui, Si on ne veut pas que ça tourne à la catastrophe, il faut être formé. En effet, ça peut paraître comme ça, simple sur le papier. On va chercher le toutou, on le balade au bout d'une laisse. Or, un promeneur de chien déjà sera amené à promener plusieurs chiens ensemble, oui. Donc qui amène à gérer une meute.
Ou alors, faut qu'ils prennent très très
canine.
Cher la promenade.
Voilà. Donc, en effet, donc là, pour à la fois que ce soit rentable et même pour l'équilibre du chien, qui appréciera beaucoup plus de pouvoir se balader avec et d'interagir avec d'autres chiens plutôt que d'être attaché au bout d'une laisse sur un trottoir. Et la promenade de chien idéale, évidemment, comprend une partie sans laisse. Donc le promeneur de chien doit être aussi équipé d'un véhicule qui permette d'aller dans les endroits où les chiens sont autorisés sans laisse et peuvent se promener. Donc il faut avoir une très bonne appréhension du comportement canin en groupe,
oui.
D'avoir aussi...
Et ça s'apprend, on est bien d'accord.
Ça s'apprend. Et évidemment, le diplôme qui fait encore référence, c'est le brevet professionnel éducateur canin.
D'accord.
Qui a été mis en place par la profession, par le syndicat national du chien et du chat, en partenariat avec des professionnels, des éthologues, vraiment de manière concertée. Un autre est dans les tuyaux pour justement l'aménager, l'améliorer avec les dernières connaissances scientifiques sur le domaine. Mm-hmm. Donc là, déjà, bien connaître le comportement du chien, être soi-même aussi propriétaire de chiens qu'on appelle après régulateur. On s'aperçoit que des professionnels sérieux amènent avec eux leurs propres chiens qui ont déjà le flair pour détecter des tensions pas encore visibles à l'œil nu entre deux chiens qui permettent de recadrer certains chiens un peu foufous, souvent les jeunes chiots qui sont tellement contents, qui ont tendance à déborder un peu. Donc là, non, c'est un métier qui doit se faire
très
sérieusement.
Donc finalement, si je comprends bien Gwen, promeneur de chien, éducateur canin, c'est la même filière pour être diplômé finalement.
Oui, et on s'aperçoit que souvent les promeneurs de chiens ont bénéficié de la double casquette, en sachant que évidemment, boom des métiers, ça a suscité de nombreuses vocations. La concurrence maintenant est féroce aussi dans ce secteur.
Bien sûr.
Et donc du coup, il faut aussi pouvoir être très flexible au niveau horaire, cumuler les casquettes, de faire de l'éducation canine. Là encore, je le répète, en étant bien formé, en étant sérieux, et proposer après un service de garde.
Ce sont des formations qui durent combien de temps? Parce que
alors,
on voit un peu de tout quand même.
Pour le BP éducateur canin dure un an.
Oui.
Ce sont quand même des formations. Les métiers animaliers en général, hormis les cursus longs scientifiques de type vétérinaire, s'apprennent en 2 voire 3 ans, mais sont des formations très pratiques, très axées sur le milieu professionnel, avec des stages, de l'alternance, qui permet vraiment de mettre de suite d'entrer dans le bain, et ce qui est très important, puisque parfois entre le rêve et la réalité des métiers, il y a un hiatus qui peut un peu brutal pour certains.
C'est, bien sûr.
Les animaux, c'est du vivant. C'est donc ce qui implique du nettoyage pour s'assurer de leur bien-être, aussi être parfois confronté à la souffrance, à la maladie. Donc il faut y être bien préparé. Pour ça, il y a la formation et il y a aussi les stages qu'on peut faire dès sa scolarité pour mettre un peu le nez ou la truffe dedans.
À qui doivent s'adresser les jeunes qui souhaitent obtenir ce diplôme d'éducateur canin qui leur permettra aussi de faire des promenades en ayant quand même une formation solide?
Alors évidemment, le premier contact, c'est le bureau d'orientation qui existe au sein des collèges et des lycées. Ensuite,
et on est pris au sérieux aujourd'hui quand on est un jeune qui va bientôt démarrer dans la vie professionnelle et qu'on dit qu'on va être éducateur canin?
Écoutez, moi, pour peu qu'on se fasse, que justement, on est bien validé sa formation, qu'on ait fait aussi une étude de marché, parce que ça dépend beaucoup aussi du lieu où on va s'implanter. Mm-hmm. Il faut faire le tour de la concurrence, savoir s'il y a énormément de professionnels dans le secteur géographique.
C'est pas un milieu toujours facile, d'ailleurs. Hein. Les éducateurs entre eux sont pas toujours très tendres.
Non, et ils n'ont pas tous les mêmes méthodes d'éducation.
Oui.
Là aussi,
ils ont des territoires de promenade.
Voilà, 30 millions d'années, on insiste beaucoup sur toutes les méthodes dites du renforcement positif, c'est-à-dire l'inverse des méthodes punitives qui malheureusement existent encore, même si elles sont minoritaires dans le milieu d'éducation canine.
Alors puisqu'on a décidé d'être vraiment très pratico-pratique ce matin sur Sud Radio, un jeune qui décide donc de se lancer dans cette formation, il peut espérer visiblement trouver un métier puisque vous nous expliquiez que c'est un métier qui a le vent en poupe, donc il trouvera visiblement un emploi, plutôt un emploi salarié, ou est-ce qu'il faut se mettre à son compte pour être sûr d'avoir un débouché ?
Ah non, la plupart, en tous les cas, dans l'éducation canine, dans la promenade de chien, ça nécessite de se mettre à son compte.
D'accord.
Donc là encore, de bien préparer, faire une étude de marché, pour aussi s'assurer des revenus suffisants, ne serait-ce que pour vivre, peut-être envisager de conserver une activité à mi-temps dans un premier temps, puisque le plus dur pour toute jeune entreprise, c'est de passer le fameux cap des 3 ans.
Ouais,
donc évidemment, au départ, on peut pas se dégager, ne serait-ce qu'un SMIC. Donc là encore, ce sont des métiers passion, ce sont des métiers où il faut savoir où
on ne fait pas vivre
fortune.
Quand même.
Voilà, mais pour en vivre et surtout au démarrage d'une activité, il faut aussi assurer ses arrières avec pourquoi pas un emploi plus alimentaire entre guillemets, qui permet de se donner le temps pour justement que la mayonnaise prenne, que le bouche à oreille fonctionne et que la clientèle soit établie.
Bien sûr. Alors on va parler maintenant d'un autre métier qui depuis des années a sa place parmi les métiers préférés de ceux qui souhaitent travailler en compagnie des animaux. C'est le métier de toiletteur ou de toiletteuse. Est-ce que la tendance se ralentit un petit peu sur les débouchés de cette filière ? Comment ça se passe ?
Eh bien non, pas du tout. Au contraire, le nombre de salons de toilettage ne cesse d'augmenter. La demande est forte et même exponentielle, puisque maintenant les chats aussi fréquentent les salons de toilettage. Alors évidemment les chats à poils longs, mais qui aussi ont la cote chez les particuliers, donc on pense aux persans, mais aussi aux Maine Coon, ces grosses races qui, pour tout propriétaire, quand même laissent son lot de poils. ces salons de toilettage, donc, et en plus avec une dimension vraiment qui va dans l'excellence, dans le souci de l'esthétisme, c'est-à-dire que la clientèle n'est pas juste à la recherche d'un lavage et d'un brossage, une coupe basique. Ils se montrent vraiment exigeants sur la qualité de la coupe, sur les détails, les finitions, ce qu'on appelle les séances d'épilation. Donc non, pour peu, là encore, qu'on ne compte pas ses heures, qu'on soit bien formé, là encore, la branche professionnelle a vraiment
alors
bien
structuré.
Alors
justement, comment on se forme pour devenir toiletteur ou toiletteuse ?
Ça passe par une formation qui a été organisée par les professionnels et qui s'appelle certification de qualification professionnelle toiletteur canin et félin.
D'accord.
Et ensuite, il y a la possibilité de se spécialiser encore par un brevet technique des métiers, toiletteur canin et félin. Là, je le précise bien, puisqu'il y a des modules consacrés au toilettage félin qui ont été intégrés il y a 2 ans.
D'accord.
Donc, ce sont vraiment les deux, les deux formations très sérieuses, très mises à jour qui existent et qui permettent de se préparer en 2, voire 3 ans au métier de toiletteur canin où, là encore, la demande est forte.
Vous qui avez donc mené cette grande enquête pour le compte du magazine 30 millions d'amis qui est en kiosque en ce moment jusqu'à la fin du mois de mars, quelles sont selon vous les qualités requises pour être toiletteur ou toiletteuse ?
Alors, la première des qualités, c'est une bonne appréhension de l'animal. C'est-à-dire que il faut que la séance de toilettage soit un moment agréable pour le chien ou pour le chat. Et ensuite, bien évidemment, un bon coup de ciseau, hein, car là, comme on le disait, l'exigence de la clientèle est de plus en plus ardue. Donc, d'avoir vraiment une maîtrise de la coupe à adopter en fonction de telle ou telle race. Et donc là, et évidemment, un sens aussi humain, puisqu'on est amené à discuter avec les propriétaires de chiens. C'est vraiment un moment aussi de partage entre amoureux des animaux. Et là encore, il faut avoir du sens relationnel, puisqu'il faut le savoir aussi, une partie du chiffre d'affaires des toiletteurs vient de la vente d'accessoires, de produits d'hygiène. Donc il faut aussi avoir un petit sens commercial pour pouvoir justement assurer la pérennité de son entreprise.
Et contrairement aux promeneurs ou aux éducateurs canins, c'est peut-être plus facile de trouver un poste de salarié ?
Oui. Alors même si la plupart des salons de toilettage sont quand même tenus par une ou deux personnes, c'est plus facile et d'ailleurs c'est conseillé de commencer en tant que salarié. Ça permet de minimiser les risques,
d'apprendre avec une personne expérimentée.
Exactement. Ce que déjà la formation en alternance permet, mais voilà, je pense que c'est une bonne moyen de mettre un pied dans dans ce secteur. Et puis, j'imagine que comme dans tout métier, ensuite, on a envie de se mettre à son compte et de pouvoir exercer justement à la tête de son entreprise.
Donc là encore, si on résume, pour être toiletteur canin, une formation conséquente oui. où on travaille beaucoup sur le terrain, où on rencontre oui. des gens qui ont de l'expérience. Il ne faut pas compter ses heures, il faut être motivé, il faut avoir et le sens de l'animal et le sens du client, parce qu'il faut vendre Exactement. Autre chose que simplement le toilettage pour gagner sa vie.
Exactement.
Un autre métier, Gwen, qui je pense a lui aussi le vent en poupe, c'est la médiation animale. C'est vrai qu'on en parle très régulièrement, notamment dans cette émission. Beaucoup de maisons de retraite, d'EHPAD, de centres de soins divers et variés, même des écoles font appel à des gens qui font de la médiation animale. Et là encore, ça nécessite une formation.
Oui. Une formation, alors qui est adossée souvent à une autre, hein, parce que les intervenants en médiation animale, c'est comme ça qu'on les appelle, ont souvent un autre métier, donc lié à la prise en charge voilà, sociale ou médicale de personnes en difficulté. Donc, ils peuvent être éducateurs spécialisés, infirmiers, kinés, et ils utilisent la médiation animale pour justement venir en aide aux personnes qui ont soit un problème de confiance en elles, soit d'ouverture aux autres, ou alors de la motricité, de l'appel à la mémoire chez les personnes âgées. Donc les formations, pour l'instant, sont organisées soit par des associations reconnues comme Humanima, oui. et dans le domaine chien, chat, lapin, qui peuvent être mammifères utilisés, ou alors Equided, Andy Cheval aussi, qui propose une formation qui est inscrit au registre des métiers. Et certaines universités aussi, comme celle de Paris-Descartes ou de Clermont-Ferrand, propose un diplôme universitaire sur ce sujet.
Est-ce qu'une personne qui n'aurait pas suivi une formation diplômante comme celle que vous venez de citer peut se dire médiateur animal ? Ou est-ce qu'il vraiment il faut montrer quand même son diplôme ? Parce qu'on a affaire à des sujets délicats là.
Oui, exactement. Et en sachant aussi, il faut le savoir, que de nombreuses interventions en médiation animale dans des structures sont faites à titre bénévole. Mmh. Donc, pour pouvoir prétendre être salarié d'une association ou facturer cette prestation, évidemment, il faut avoir un sacré background pour pouvoir justifier de facturer ces prestations.
Mmh. Quelques mots sur le métier de vétérinaire. Alors, moi, j'ai été très étonnée en lisant votre article que j'ai découvert avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Merci. Moi, je suis sortie de l'école vétérinaire de Maisons-Alfort il y a quelques années maintenant. Et en lisant votre article, j'ai découvert qu'aujourd'hui, les jeunes vétérinaires sont diplômés d'autres pays que de la France, en fait. Ils viennent d'ailleurs et ils s'installent en France.
Parce que vous avez dû le voir de vous-même, le cursus vétérinaire est extrêmement sélectif.
Oui.
Et c'est vraiment... du coup, on est sur une la voie royale qu'on appelle le concours A nécessite 2 ans de classe préparatoire et ensuite pour.
Je vous confirme que ça n'a pas été les meilleures années de ma vie.
Et donc, on peut s'associer à un parcours du combattant. Donc, la vocation et la passion sont fortes. Et donc, la majorité des vétérinaires peuvent passer ce cadre très difficile. Mais en effet, le concours est très sélectif. Après avoir passé 2 ans, seuls 20% des élèves sont reçus dans l'une des 4 écoles vétérinaires. Oui. Et donc, du coup, ceux qui ne trouvent ces portes fermées n'hésitent désormais pas à se tourner vers les formations européennes, puisque l'homogénéisation des diplômes européens permet désormais à un étudiant ayant suivi son cursus dans un des pays de l'Europe de pouvoir exercer en France.
Donc, d'accord. Donc en fait, ce que vous dites, c'est que finalement, ceux qui s'installent en France après avoir été diplômés à l'étranger, pour beaucoup d'entre eux, sont français. Ils ont été faire leurs études ailleurs.
Voilà, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser quelques problèmes aux pays formateurs, dont la Belgique par exemple, qui a dû justement restreindre le nombre d'étudiants français suivant le cursus en Belgique, puisque finalement ils n'exerçaient pas après dans le pays de formation. D'autres pays proposent des formations, mais là encore, il faut savoir que ça nécessite un financement beaucoup plus important que si on veut étudier en France, puisque les formations sont, les frais de scolarité s'élèvent entre 6 000 et 7 000 euros par an, contre 2 600 euros par an en France. Donc ça nécessite, en plus de se loger, et en deuxième ou troisième année, d'apprendre aussi la langue du pays. Donc
c'est une barrière compliquée quand même, parce que les études sont compliquées. Si en plus on rajoute la barrière de la langue, c'est vrai que c'est un parcours un peu du combattant. Mais visiblement, toujours d'après votre article, il y a en France aujourd'hui 18 548 vétérinaires qui exercent sur notre sol. Donc voilà, c'est que c'est possible d'y arriver quand on a vraiment, vraiment, vraiment envie.
Et les portes s'ouvrent un peu plus puisque l'objectif en 2024 est de former 500 étudiants vétérinaires en plus pour pallier les manques d'effectifs en milieu rural notamment et les départs à la retraite qui vont se faire de plus en plus nombreux. Et aussi, rappelons une bonne initiative, cette année 160 élèves seront sélectionnés par la plateforme Parcoursup pour une classe prépa intégrée dans l'une des écoles vétérinaires et qui du coup permettra à des élèves qui n'ont pas forcément aussi les moyens de subventionner 2 ans de classe préparatoire de pouvoir intégrer une classe prépa intégrée d'un an et qui permettra après de passer aussi le concours. Donc là encore on est dans un
on est dans une logique d'ouverture.
Exactement.
Et si on rate le concours veto, eh bien on peut quand même devenir assistant ou assistante vétérinaire.
Exactement, ce sont des maillons vraiment essentiels dans le bon fonctionnement d'un cabinet vétérinaire. Tous les professionnels le savent.
Bien sûr, il n'y a pas de bon veto sans bons assistants.
Exactement, et du coup, là encore, les parcours de formation sont bien structurés et les diplômes, de nouveaux diplômes aussi arrivent dans ce domaine-là qui permettent d'élargir les compétences de ces assistantes vétérinaires, notamment lors des opérations chirurgicales. Il y a une nouvelle formation diplômante qui permettra d'acquérir des nouvelles techniques pour assister le vétérinaire dans les soins un peu poussés aux animaux.
Combien de temps dure la formation pour devenir assistant vétérinaire ? C'est une formation post-bac ?
Oui, de 2 ans.
De 2 ans.
Voilà, et donc le nouveau certificat de qualification professionnelle technicien en soins vétérinaires donne la possibilité aux assistantes vétérinaires, un métier, on le rappelle, majoritairement féminin à 90%, de pouvoir de gagner en compétences et aussi de pouvoir augmenter le niveau de salaire en conséquence.
Bien sûr. Alors là, on a parlé de beaucoup de métiers, mais tous sont en lien avec les animaux de compagnie. J'imagine que le monde de la faune sauvage attire également beaucoup de jeunes qui souhaitent soit développer un contact plus fort avec la nature, c'est vraiment dans l'air du temps, ou sont tout simplement fascinés par la faune sauvage. Quels sont les débouchés en la matière ?
Alors, les débouchés les plus importants concernent les métiers de préservation de la nature. Les perspectives nouvelles sont notamment dans les espaces protégés, par exemple en termes de la sensibilisation qui doit être faite envers le public qui fréquente ces espaces comme les parcs naturels, les réserves. Donc les guides animateurs est un métier qui permet de sensibiliser le public, touristes, scolaires à la nécessité de préserver l'environnement. Des gardes naturels aussi qui fréquentent ces sites pour rappeler à l'ordre les randonneurs ou les visiteurs qui ne respecteraient pas forcément l'intégrité de ces espaces. Donc tout ce qui est en lien avec la préservation du vivant, de la biodiversité dans son ensemble, permet de trouver des métiers. Plus difficilement, évidemment, dans tout ce qui est études scientifiques des animaux sauvages, où là, les professionnels se comptent sur les doigts d'une main. On pense beaucoup, par exemple, au métier de cétologue.
Ça fait rêver, marins. Bien sûr.
Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, là encore,
Gwen, restez avec nous. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour justement que vous donniez quelques conseils à ceux qui aimeraient être cétologues, par exemple. À tout de suite.
À tout de suite.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Merci infiniment d'être présent comme chaque samedi matin pour écouter vos animaux. Alors, dans la suite de cette émission, dans notre séquence à l'état sauvage, un spécialiste des orques partagera avec nous quelques-unes de ses connaissances sur ce fascinant mammifère marin. Et puis en fin d'émission, un moment de détente, puisque nous vous inviterons à faire de la médiation animale. Mais tout de suite, nous poursuivons le gros dossier du jour, celui des formations aux métiers en lien avec les animaux. Et c'est Gwen Hamp, qui est journaliste pour le magazine 30 millions d'amis, qui nous éclaire.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Alors Gwen, après avoir fait une liste non exhaustive mais néanmoins longue de quelques métiers qui ont vraiment le vent en poupe en lien avec les animaux domestiques, on était arrivé à la faune sauvage parce que là il y a aussi beaucoup de vocations en la matière et vous nous parlez d'un métier qui fait rêver, je pense, tous ceux qui aiment les animaux, c'est le métier de cétologue. Cétologue, ça veut dire qu'on s'intéresse aux mammifères marins, aux cétacés. Mais alors, forcément, entre le rêve et la réalité, parfois, il y a un océan.
Oui, un océan, comme c'est bien dit. En effet, on...
Je ne l'avais pas préparé, mais c'est venu comme ça.
C'est très, très judicieux. Mais on reconnaît la professionnelle. Là, en fait, en France, on compte 5 cétologues vraiment scientifiques.
D'accord.
Voilà, une poignée, qui ont la chance de pouvoir observer, étudier les baleines, phoques, orques dans leur milieu naturel.
D'ailleurs, on en aura un tout à l'heure qui est vraiment le spécialiste des orques qui va nous faire partager sa passion. Pierre-Robert voilà, Delatour.
C'est pour ça qu'on a autant de plaisir à les écouter aussi, puisque on aimerait quelque part être à leur place. Après, la réalité, en effet, les groupes de recherche, souvent internationaux, sont à la recherche de spécialistes, mais c'est pas un secteur économique qui permet de dégager énormément d'emplois. Donc, évidemment, puisqu'il y en a, il y en a qui sont arrivés au bout de
c'est
leur
ça.
Rêve,
mais tout ça est possible.
Voilà, un cursus en biologie beaucoup plus large, et certains ont commencé peut-être leurs études de biologie pour devenir cétologue et d'autres passions aussi. On peut très bien se passionner pour les crustacés, le peuple de la mer, peut-être moins extraordinaire.
Oui, mais c'est différent, on va dire.
Exactement. La filière aquacole, par exemple, a besoin
oui,
d'expertise, de spécialistes. Et là, on trouve un bassin d'emploi tout aussi plus important et des passionnés aussi, des passionnés de biologie marine qui sont peut-être venus aux sciences de la mer par fascination pour ces grands animaux, mais qui s'aperçoivent que le très petit a aussi son rôle à jouer dans ce merveilleux écosystème.
Y a-t-il des débouchés, Gwen, dans les centres de soins pour faune sauvage ?
Là encore, oui, c'est vrai que si on veut aider les animaux sauvages, on y pense peut-être.
Et on parle de centres de soins en France, hein, il n'y a pas besoin de partir en Afrique, même si ça peut être aussi formidable.
Exactement, des animaux blessés, la faune sauvage à préserver de nos champs, de notre nature, proche de chez nous, des centres donc de soins recueillent soit des animaux blessés par des accidents de la route, soit malheureusement victimes de marées noires ou de pollution industrielle. Et s'ils sont chargés de les prendre en soin en évitant trop les contacts parce que le but c'est que l'animal puisse recouvrer son indépendance et sa liberté. Et ces structures-là donc sont sous le régime de l'associatif, donc à but non lucratif. Et un nouveau métier émerge dans ce secteur-là. Si on veut vraiment œuvrer pour la faune sauvage française, on peut devenir chargé de développement dans un centre de soins de la faune sauvage.
Alors, ça veut dire quoi, concrètement ?
Ça veut dire clairement, on va prendre son bâton de pèlerin et essayer de trouver des financements pouvoir...
Le nerf de la guerre.
Exactement. Et sensibiliser les structures qui disposent d'un budget à consacrer et qui sont sensibilisées à cette biodiversité, cette faune sauvage. Les entreprises, du mécénat d'entreprise, c'est un système qui est très développé dans les pays anglo-saxons où des entreprises financent des centres de soins, des actions en faveur de la biodiversité. C'est encore moins développé en France. Et là encore, ce nouveau métier permet d'aller au contact des chefs d'entreprise qui souhaitent soit mener un projet, on parle beaucoup de cohésion d'entreprise, de fédérer les salariés dans un projet commun en dehors du milieu professionnel. Mm-hmm. Bah, c'est l'occasion de s'associer à un centre de soins à proximité, de faire des opérations, de pouvoir faire du bénévolat, par exemple refaire une clôture, de faire une journée au lieu de faire un séminaire dans un ping-pong, et ben on va aider un centre de soins et on renforce la cohésion et l'esprit d'entreprise.
Très bien. Écoutez, Gwen, est-ce qu'on peut conclure juste avec deux conseils pratiques aux jeunes qui nous écoutent, qui veulent trouver ou qui ont déjà trouvé leur voie, mais qui veulent la concrétiser ?
Alors, premier conseil, ne pas faire l'impasse sur la formation. La formation, c'est d'être, de bénéficier de l'expertise de professionnels qui sont passés par ce même chemin avant vous. Donc, ça permet d'être aguerri à la réalité du métier et d'avoir les codes, le cursus pour pouvoir bien démarrer en tant que chef d'entreprise ou savoir se vendre auprès d'un futur employeur. Deuxième cas, ne jamais lâcher. Moi, j'ai interviewé des jeunes étudiants.
Vous avez raison, ne jamais lâcher.
Et qui m'ont dit la même chose. C'était difficile. J'ai failli maintes fois baisser les bras, mais ma passion des animaux était plus forte et j'y suis arrivée. Donc, malgré parfois l'absence de débouchés, si au fond de vous, vous sentez que c'est ça, pour ça vous êtes fait dans la vie, ne lâchez pas.
Très bien. Très, très jolie conclusion, Gwen. Merci infiniment. Ce dossier complet et vraiment extrêmement bien fait est à retrouver dans le magazine 30 millions d'amis qui est en kiosque puisqu'il s'agit du numéro de mars. Allez, on va maintenant partir dans un autre monde, celui des orques, en compagnie de Pierre-Robert Delatour.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Bonjour Pierre, merci infiniment d'avoir libéré du temps pour vos animaux, pour nous parler des orques. Alors c'est drôle parce qu'il y a quelques minutes, nous étions en compagnie de Gwen Hamm, journaliste pour le magazine 30 millions d'amis, qui a fait ce magnifique dossier sur les métiers en lien avec les animaux. Et elle parlait notamment des cétologues en disant bah, c'est un métier qui fait rêver beaucoup de jeunes, mais peu de débouchés, on le sait. Vous Pierre, vous êtes l'exemple vivant que quand on est passionné par un sujet, eh bien, on peut arriver à en faire son métier.
Oui, c'est exact. J'ai attendu un bon moment avant de pouvoir en faire mon métier. J'ai d'abord vécu cette passion pendant des années sur mes congés. Et puis petit à petit, je me suis installé professionnellement et je guide des passagers maintenant qui viennent en Norvège partager cette aventure avec moi. Et c'est devenu ma profession pour quelques mois.
Alors, Pierre, vous avez déjà participé à notre émission où on a déjà eu l'occasion de vous écouter nous parler de cette passion qui vous anime, cette passion pour les orques. Beaucoup de choses se passent actuellement dans votre actualité, beaucoup de nouveautés. Mais déjà, peut-être pouvez-vous un peu nous expliquer en quoi ces animaux vous fascinent tant?
C'est quelque chose qui est difficile à décrire parce qu'on le ressent plus qu'on ne l'explique, mais il y a une forme de fascination pour cet animal quand on le côtoie de près. Déjà, quand on est sur le pont d'un bateau, qu'on peut les observer alors qu'il n'y a aucune relation, aucun contact, ni visuel, ni aucune interaction, on est fasciné par cet animal, mais quand on a la chance de pouvoir être sous l'eau et croiser leur regard, vivre des véritables interactions, on perçoit derrière le regard de cet animal une vaste intelligence. On perçoit quelque chose de grand, on se sent dépassé et ça les rend très attractifs, effectivement, et on est de plus en plus nombreux maintenant, je dirais, heureusement et malheureusement, à se rendre dans les endroits où on peut plonger avec eux, que ce soit les orques en Norvège, mais aussi les baleines dans le Pacifique ou les dauphins autre part dans le monde.
Qu'est-ce que vous constatez en ce moment? Là, l'hiver, par exemple, cette année a été particulièrement doux. J'imagine que c'est aussi vrai en Norvège.
Alors, ça a été une saison très, très intense et très intéressante. Vous avez raison de le signaler, Natacha, c'est que notre saison s'est divisée en deux parties. La première partie de la saison où on a eu un très beau temps, des conditions exceptionnelles pendant que la France prenait des averses tous les jours pendant plus d'un mois et demi. Et nous, on n'a pas vu passer un nuage en Norvège. Il a fait un temps exceptionnel. On a eu des rencontres absolument exceptionnelles parce que tout dépend du temps. C'est ce qui nous permet, nous, d'accéder à la zone, à pouvoir sortir en bateau. Et puis la deuxième partie de la saison, à partir de la mi-décembre, a été perturbée par des averses de neige et des averses tout court. Mais la constante a été qu'il a fait un climat très doux, beaucoup plus doux que d'habitude.
Il faisait quelle température à peu près tout en haut de la Norvège, là où vous allez à la rencontre des orques?
Normalement, jusqu'à novembre, il peut faire des températures jusqu'à 6-7 degrés. Mais à partir du mois de janvier, c'est la période la plus froide. On est supposé avoir des températures qui peuvent monter jusqu'à moins 12, enfin, monter et descendre jusqu'à moins 12 degrés. Cette année, je crois qu'on n'a pas eu de températures négatives ou très peu, c'était 0, 1, 2. On a même eu parfois des résidus de tempêtes atlantiques qui montaient vers le nord de la Norvège avec des averses de pluie qui faisaient fondre la neige. Alors, paradoxalement, la température sur le pont du bateau était donc humide, mais douce, hein, 7, 8 degrés. Et dans l'eau, à cause de la fonte des neiges, elle était très froide.
Et est-ce que ça change quelque chose par rapport à la vie des orques? Parce que peut-être que ces changements de température, de climat, ont un impact sur les poissons dont ils se nourrissent.
Oui, c'est ce qui a un petit peu perturbé la fin de notre saison. Alors, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas de recul là-dessus, mais les orques, les harengs sont partis une semaine avant la date que nous avions prévue, que nous avions un petit peu programmée par rapport à l'expérience des années précédentes. Ce qui fait qu'à la dernière semaine, on a un petit peu couru après, donc elle a été très perturbée par le mauvais temps. Et les orques et les harengs ont disparu pendant cette dernière semaine de notre zone. Il est possible que ça impacte les bandes de harengs dont se nourrissent les orques. Il est un petit peu trop tôt pour le dire. Moi, personnellement, je pense que ça doit avoir un effet, effectivement.
Ah, on a perdu Pierre.
Allô?
Non. Oui.
Allô?
Oui, c'est bon, Pierre. Vous êtes toujours là par téléphone avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous parler de votre passion pour les orques. Alors, il y a quelque chose, enfin, beaucoup de choses vous fascinent chez les orques, mais il y a quelque chose en particulier qui vous fascine depuis longtemps et vous êtes en train de mettre au jour tout ça. C'est peut-être leur capacité à nous aider, nous, êtres humains. Mais je vais vous laisser expliquer ce que vous avez en tête par rapport à ça.
C'est quelque chose qui s'est imposé pratiquement comme une évidence pour moi. Encore une fois, je ne peux pas l'expliquer, la science ne peut pas l'expliquer pour le moment, mais je suis sûr que ça viendra. Pendant des années, j'ai consacré tout mon temps à l'étude du langage corporel et de la communication non-verbale des orques. Et je me suis récemment intéressé à leur son, à leur communication sonore. Et pour moi, il ne fait aucun doute que les orques utilisent les sons pour communiquer, qu'ils ont un langage verbal.
Ils communiquent beaucoup d'ailleurs par son.
Oui, surtout les orques de Norvège qui mangent du poisson communiquent énormément par les sons. On ne sait pas ce qu'ils se disent, on ne peut pas évaluer la complexité de ce langage parce qu'on ne le comprend pas. Et j'ai fini par admettre que si nous ne le comprenions pas, malgré nos meilleurs scientifiques et des spécialistes, c'est que peut-être nous sommes nous limités par notre cerveau. Il faut savoir, non mais je veux dire, il faut le prendre un petit peu comme une leçon de modestie. Les orques, les dauphins, les baleines ont un cerveau qui est plus gros que le nôtre et potentiellement plus performants, notamment des facultés cognitives qui sont mises en évidence maintenant, qui sont plus performantes et plus, que les nôtres. Moi, j'en arrive maintenant à la conclusion que pendant toutes ces années, nous sommes passés à côté de quelque chose d'important. Nous avons vu ces créatures comme de simples animaux que l'on peut observer, qui sont beaux, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous avons affaire à ce que je nomme étant une civilisation sous-marine, océanique, brillante, disposant de savoir. Et il faut absolument que l'on fasse des efforts, que l'on mette des moyens pour la compréhension de ce langage et pour connaître un petit peu ces savoirs, parce qu'un jour, ils nous profiteront.
De quelle manière, par exemple? Qu'est-ce que vous avez en tête? Parce que je sais que derrière tout ça, il y a tout un projet qui est vraiment construit de votre part.
Voilà, c'est un projet qui est en train de voir le jour aujourd'hui, qui est l'utilisation des sons des cétacés pour améliorer sa santé, rester en forme.
C'est quelque chose santé de l'être humain, vous voulez dire?
De l'être humain, pardon, oui. Je pense que c'est quelque chose qui a été observé chez les baleines à bosse, par exemple, en Guadeloupe, par Pierre Lavagne de Castellan, qui est un bioacousticien marin, qui a observé des baleines à bosse qui se réunissaient, qui s'administraient des massages sonores. Je suis convaincu, et Pierre est d'accord avec ça, que ces créatures ont développé des savoirs d'utiliser les sons pour leur bien-être, en utilisant des fréquence spécifique, et c'est quelque chose.
Est-ce que c'est peut-être pour peut-être être encore plus explicite pour nos auditeurs qui ne sont pas comme vous de fins connaisseurs des orques, j'imagine. Est-ce que c'est un peu un parallèle de ce que pourrait être le ronronnement du chat quand on parle de ronronnement thérapie? Est-ce qu'on est un peu dans ce genre de sujet-là?
C'est tout à fait ça. Les sons sont des vibrations qui ont un effet sur la matière, qui ont un effet sur le vivant. Et un autre exemple peut être effectivement celui du ronronnement du chat. À la différence que, sans vouloir faire injure au chat ni à l'intelligence du chat, nous avons affaire à des créatures extrêmement sociales, extrêmement intelligentes, qui depuis des millions d'années se transmettent leur savoir de génération en génération. Je suis convaincu que parmi ces savoirs se trouve aussi l'utilisation des sons. Ils ont observé que ces sons avaient des effets et ils les utilisent sans qu'on ne le soupçonne. Mmh. Et je souhaite maintenant partir sur des projets qui vont réunir.
Donc concrètement, Pierre, votre projet actuel là, que vous êtes en train de lancer, c'est ça? Ce sont de grandes études scientifiques pour essayer de comprendre cette utilisation possible des sons des orques pour leur bien à eux, dans la perspective de les utiliser aussi pour notre bien à nous?
C'est exactement ça, c'est de mettre effectivement en place des équipes de scientifiques. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du son. Moi, j'ai juste perçu cette possibilité-là en étant immergé depuis de très nombreuses années à proximité de ces animaux. C'est quelque chose que j'ai ressenti, c'est quelque chose que je souhaite proposer, c'est quelque chose sur lequel je voudrais avoir l'avis de spécialistes et mettre en place des équipes de scientifiques qui étudient de manière scientifique ce phénomène-là pour pouvoir extraire effectivement des productions sonores de cétacés, ces fréquences que l'on pourrait utiliser à but thérapeutique pour améliorer notre santé, pour rester en forme. On sait que c'était quelque chose que nous, êtres humains, nous pratiquions assez couramment avant que l'on découvre la médecine moderne, la médecine curative, les chants mongols, les bols tibétains, les chants chamaniques, tout ça, c'était des... Les peuples premiers utilisaient déjà les sons pour à vertu thérapeutique. Je suis convaincu que les cétacés l'ont fait mieux que nous. Il faut juste que l'on comprenne comment cela fonctionne et que l'on comprenne leur langage pour pouvoir identifier ces sons-là.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Pierre. À chaque fois qu'on vous a, c'est un plaisir parce que on vous sent tellement investi dans cet univers des orques que vous nous embarquez avec vous dans ce grand voyage. Merci infiniment. Merci. Allez, on a besoin de douceur en ce moment avec tout ce qui se passe sur notre planète. Alors, dans quelques minutes, nous allons essayer de méditer en compagnie de nos chats.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Allez, je vous avais promis un peu de douceur, un peu de bien-être pour terminer cette émission. J'ai le plaisir de recevoir Edith Gauthier. Bonjour Edith.
Bonjour Natacha.
Edith, vous êtes maître Reiki, enseignante et praticienne. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « 5 minutes pour méditer avec son chat ». Alors, moi, je trouve ça super, cette idée de méditer avec son chat. On a beaucoup de choses à apprendre d'eux, j'imagine, en la matière.
Oui, beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est un antistress naturel, le chat. Ils ont une capacité d'absorber notre stress, nos soucis. D'abord, leur pelage est très chaud et il suffit de mettre la main sur un chat pour être bien, en fait. Et l'avantage du chat, c'est qu'il bouge pas trop. C'est pas comme un chien qui va se promener un peu partout quand vous êtes avec lui. Là, un chat, ça peut être statique et c'est un médium naturel. Donc, on peut lui poser des questions, on aura des réponses au niveau du cœur, par exemple.
Alors, essayez de nous donner quelques conseils pour méditer 5 minutes par jour avec notre chat. Comment on s'y prend ?
Alors, vous avez deux possibilités. Ou votre chat est là, ou il n'est pas là. Ou vous n'avez pas de chat. Alors, quand votre chat est là, c'est plus facile.
Bah, si on n'a pas de chat, ça va être compliqué, non, de méditer avec son chat.
Avec une photo.
Ah, d'accord. Alors, faisons déjà pour les gens qui ont un chat qui est présent.
Oui. Voilà. Alors, le chat, vous allez l'appeler, il va venir automatiquement quand vous allez vous mettre en méditation. C'est-à-dire quand vous allez venir au calme, vous mettre au calme sur une chaise, sur un fauteuil, sur votre lit, le chat, il va arriver automatiquement. Et là, vous allez vraiment l'avoir à côté de vous.
Est-ce qu'il y a une position à adopter pour ça ? Moi, je vous avouerai que je n'ai jamais fait de méditation de ma vie. Donc, est-ce qu'il y a une position physique à adopter ?
Pas du tout. Non, pas du tout. Il faut arrêter avec tout ça. On fait ce qu'on peut, ce qu'on a.
D'accord.
Méditer, c'est d'abord être au calme.
Okay.
D'abord, c'est être au calme, déjà.
On se pose.
Et faire une espèce de vide mental, essayer d'oublier les soucis de la journée, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire les voir arriver, se poser et s'envoler comme un papillon qui s'envole. Parce qu'on ne peut jamais bloquer les pensées, n'est-ce pas ? Mais on peut arriver à un certain calme au niveau du battement de cœur, pardon, poser la main sur son cœur, et déjà, ça va aller mieux. Ensuite, il y a le chat qui est là. Et là, ça va tout arranger, un chat. Vraiment, le fait de rentrer en communication avec lui, il y a une petite technique qui est toute simple, et qui, après, on n'a plus besoin de la faire. C'est ce qui m'est arrivé par hasard, c'est pour ça que j'écris ce livre avec mon chat. Vous imaginez un chemin, un joli chemin, avec le chat au bout du chemin. Et là, vous allez demander la permission au chat de lui parler. Et là, vous allez avoir une réponse physique. Votre cœur va répondre. Vous allez avoir une sensation. Et à ce moment-là, vous pouvez poser des questions et puis lui demander de vous mettre en paix.
D'accord.
Et moi, quand j'ai eu ça, mon chat, il a fait un bond. On dit, tu me parles. Et ensuite, on a eu une relation très particulière, tous les deux. J'ai plus besoin de faire cette technique, en fait. C'est une technique connue, quand même. Et c'était maintenant, c'est automatique. Je suis quelque part, il vient, et là, je peux poser quelques questions, et il me répond télépathiquement, on va dire. Donc, on va voir des sensations. Si on est un peu plus doué, on aura des images ou des sons, mais moi, ça, c'est un peu plus rare. Mais on aura surtout une sensation. De oui, de non, et de bien-être.
Et on pose des questions de quel type pour j'essaie de comprendre parce que
oui, bien sûr, moi, n'importe quelle question. Est-ce que je suis bien là? Est-ce que je suis dans mon chemin de vie? Et est-ce que je dois faire ceci ou cela? Voilà, c'est un peu cet ordre-là pour entrer dans la paix en fait, pour entrer dans une certaine paix, parce qu'on se pose toujours beaucoup de questions, en fait beaucoup trop d'ailleurs. Donc le chat vous aide. Pardon, excusez-moi. Le chat vous aide à être dans le moment présent, ce qui est très important.
Et que se passe-t-il au cours de la séance avec le chat? Est-ce qu'il se pose vraiment à côté de vous? Est-ce qu'il interagit? Comment ça fonctionne?
Il ne bouge plus du tout. Il ne bouge plus. Il est un chat, on croit qu'il dort en fait, mais il est en télépathie. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Il est en télépathie et il va communiquer avec tous les autres animaux, les plantes et les minéraux. Donc on croit qu'il dort, mais en fait, il communique.
D'accord.
C'est sa façon d'être bavard, en fait. C'est ça. Donc, nous, on peut en profiter. On peut poser des questions de cet ordre-là. Est-ce que ma plante a assez d'eau? Est-ce que ma pierre, elle est bien? Enfin, voilà, on peut poser tout un tas de questions, en fait. Donc, le chat est un intermédiaire. C'est un médium. Ce médium, ça veut dire entre les deux, entre le monde physique, celui qu'on voit, et puis le monde invisible.
Mm-hmm. Est-ce que c'est possible avec un autre animal? Les gens qui n'ont pas de chat, par exemple, qu'est-ce que vous leur conseillez?
Bah de prendre une photo de chat,
oui.
Sur le net, partout, ça marche très bien.
Même un chat qu'on ne connaît pas, ça fonctionne.
Absolument, ouais, tout à fait. Ou le chat d'une amie que vous connaissez, voilà, aussi, ça marche bien. Mais le chien, c'est pas pareil. Ça bouge tout le temps, un chien. C'est content, mm-hmm. Ça remet la queue, ça saute. C'est ça. Un chat, c'est beaucoup plus statique, en fait.
Qu'est-ce que vous ressentez pendant la séance?
Ah, j'ai l'impression, enfin moi personnellement, je peux parler qu'à titre personnel, je sens une reliance avec tout ce qui m'entoure. Ça gomme les différences entre vous, les autres, entre vous, les animaux, les végétaux, les minéraux. On se sent vraiment faire partie d'un tout, d'un grand tout, d'une grande famille. Ça gomme la séparation en fait.
D'accord.
Entre l'humain et le reste de la Terre. On est séparés, on est beaucoup trop séparés de tout. Et c'est notre mal-être qui en est le témoin maintenant, en fait.
Et est-ce que vous ressentez les bienfaits de ce moment, de ces quelques minutes quotidiennes après cette session? Comment vous vivez tout ça?
Ah, c'est pour moi, c'est génial, c'est une paix intérieure, c'est un apaisement. Je fais ça en fin de journée, en fait, et je dors comme un bébé. Ça me permet de faire la coupure entre la journée et la nuit. Et c'est un sommeil qui est beaucoup plus réparateur.
D'accord, ça vous aide à dormir,
oui,
à mieux dormir.
À mieux dormir, à avoir un sommeil plus réparateur, plus apaisant, plus apaisé.
Très bien. Un autre conseil pratique, Edith, pour des gens qui ont envie d'essayer, qui, comme moi, n'ont jamais fait ça de leur vie.
Ah, il faut pas trop être trop dans la technique, il faut écouter son cœur. Alors comment écouter son cœur? Se mettre la main sur son cœur. Et là, on n'est plus dans le mental, parce que c'est le mental qui nous bloque. Donc, en mettant la main sur notre cœur, vous allez rentrer en communication avec le chat. C'est-à-dire, vous mettez la main sur votre cœur et vous imaginez un joli chemin de campagne et votre chat au bout du chemin. Tout simplement, c'est de la visualisation. Vous imaginez. Et si vous n'arrivez pas à imaginer, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui n'arrivent pas à créer des images, vous prenez une photo, une carte postale ou quelque chose comme ça. Et vous fermez les yeux et vous essayez de vous la remémorer. Et vous mettez votre chat au bout. Ça, c'est vraiment... c'est efficace tout le temps. Tout le temps, tout le temps.
Eh bien, merci beaucoup, Edith Gauthier. On termine cette émission grâce à vous sur une note positive, sur une note apaisante. On en a fort besoin en ce moment.
Oui, tout à fait.
Je rappelle le nom de votre ouvrage, 5 minutes pour méditer avec son chat. Merci pour cette éducation pour néophytes que vous nous avez proposée ce matin. Voilà, c'est la
c'est
fin.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Edith, c'est la fin de vos animaux. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis bien sûr rendez-vous dès la semaine prochaine.